Merci. J'ai oublié de vous dire que les enregistrements qui sont faits, là, on espère pouvoir les mettre bientôt, les diffuser, mais il y a beaucoup de formalités administratives à faire et on ne veut pas être à côté de la plaque, alors on regarde bien où on met les pieds, mais c'est promis, ça tiendra.
Oui, ce que ne vous dit pas Juliette, c'est que c'est moi qui bloque un tout petit peu, parce que comme je raconte à chaque fois énormément de bêtises, je me méfie un petit peu des conséquences, et uniquement pour cette raison. Je voulais juste réécouter pour voir quelle était l'importance des bêtises. Alors aujourd'hui, on a un aspect de la prise en charge qui est quand même particulièrement important, et il est certain qu'il y a une vingtaine d'années, la prise en charge des maniaco-dépressifs, des troubles bipolaires, était complètement différente. Et lorsqu'on se réfère à des ouvrages de psychiatrie des années 80, ben on s'aperçoit qu'il y a une prise en charge médicamenteuse, mais il n'y a aucune place ou très peu de place aux thérapies psychologiques. Et récemment, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été publiés et qui montrent que la mise en place de ces mesures psychoéducatives en particulier permettent de limiter le nombre de récidives et surtout de diminuer les hospitalisations et la durée des hospitalisations. Et donc là, il y a quand même un enjeu très très important. Et je dirais que la prise en charge aujourd'hui du trouble bipolaire n'a strictement rien à voir avec celle qui était proposée il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années, et qui reposait uniquement sur des médicaments. Alors, cette prise en charge, ces mesures psychoéducatives, elles ne s'appliquent pas uniquement aux patients, mais elles s'appliquent aussi à l'entourage proche. Et parallèlement, il y a eu deux études qui ont été publiées la même année, c'était en 2003, dans un journal de référence de psychiatrie. Et il y avait une étude qui portait sur des mesures psychoéducatives destinées à l'entourage, une autre qui était destinée aux patients, qui montrait exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire une diminution du nombre de récidives et une diminution du nombre d'hospitalisations. Ça, c'est quand même un point très important. Et je pense que là, l'entourage est partie prenante. Il est certain que les personnes qui sont ici en ont parfaitement conscience. La difficulté, c'est de sensibiliser les personnes qui ne sont pas ici et de faire que cette prise en charge, elle soit vraiment globale et d'expliquer aussi à l'entourage la signification des symptômes, quels sont les facteurs qui peuvent intervenir. Et la précocité d'intervention, elle est aussi facilitée par l'entourage parce que c'est très souvent le conjoint ou les parents ou les enfants ou des amis qui pourront tirer sur le signal d'alarme parce que quand on va trop bien, ben en général, on ne va pas voir son médecin, on lui envoie éventuellement des fleurs pour lui dire que c'est un très bon médecin, mais ça s'arrête là. Alors, je voudrais juste, à titre anecdotique, vous présenter deux situations complètement extrêmes qui montrent bien que le travail, il doit être mené sur du long terme et que ce n'est pas très très simple. La première petite histoire, qui est une histoire vraie que j'avais déjà racontée la semaine dernière, c'est de recevoir bien sûr le conjoint en même temps. C'est quelque chose qui se fait couramment aux États-Unis, hein. En France, il est très rare de recevoir le patient et son conjoint ou ses parents. Or, le conjoint a un rôle fondamental. On n'est pas là pour le responsabiliser. On ne va pas lui attribuer une fonction de thérapeute, d'infirmier, de surveillant. Pas du tout. C'est pas un maton. Ce n'est pas. C'est quelqu'un qui va nous aider, qui va l'aider, mais surtout qui va essayer de comprendre à quoi ça correspond et qui va jouer un rôle dans le maintien, dans l'équilibre de l'état. Et donc, il y a une chose dont je répète à chaque fois, c'est que le maniaco-dépressif, le bipolaire, est quelqu'un qui fonctionne énormément à l'affect. Vous le savez tous, je le répète à chaque fois, c'est quelqu'un qui est hyperaffectif, qui est hypersensible. Et cette affectivité fait que tous les événements extérieurs peuvent avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que le ressenti, il est extrême. Il est extrême. Il est encore plus extrême dans les phases d'excitation. Parce que là, tout est vécu avec énormément d'acuité et les sens sont complètement amplifiés. Donc, je recevais une famille là depuis pas mal de temps déjà, c'est-à-dire que je recevais le mari et la femme régulièrement tous les mois, avec comme objectif d'expliquer au mari, parce que c'était la conjointe, le conjoint plutôt, la femme qui était souffrante, d'expliquer au mari quelle était la signification des symptômes et quelle attitude adopter, c'est-à-dire qu'il y a des comportements parfois qu'il ne faut pas avoir parce que ça met le feu aux poudres et ça entretient le trouble, à savoir que un conflit ou une des réactions agressives ou un état d'indifférence peut être mal vécu par la personne qui présente un trouble bipolaire et donc être un facteur de rechute, facteur favorisant. Je ne dis pas déclenchant, mais favorisant. Eh bien, là, j'avais donc un suivi très, très régulier. Et tous les mois, je donnais des informations sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, attention. Et c'est vrai que c'est un couple qui réagissait quand même de manière assez particulière parce qu'il y avait une agressivité. Et la bipolaire, à chaque fois, réagissait de manière agressive à des agressions de son mari, en fait, ou des réactions d'indifférence. Donc on travaille sur ce sujet pendant un certain temps et régulièrement pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où je croyais avoir tout résolu et une sorte d'équilibre est apparu dans le couple, sans aucun problème, tout allait bien, le mari avait parfaitement bien compris, et donc je me disais, ça y est, c'est gagné. Et à ce moment-là, il y a le téléphone portable qui de la patiente qui sonne, et la patiente, un petit peu gênée, sort son téléphone, essaie de le fermer, et le mari qui intervient brutalement et qui dit, tu veux aussi mon portable ? Et eh bien, j'ai assisté en live à un nouveau conflit, ça avait déclenché donc une agressivité, mais pour un rien. Mais c'est vrai qu'il y a des réactions comme ça qui sont mal vécues. Et tout de suite, elle s'en sentit comme un bébé, avec une leçon de choses devant plus un tiers, ce qui a été très très mal vécu. Alors ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, sur l'information, et dire comment intervenir précocement et comment reconnaître donc les symptômes, ça passe par une information, et c'est vrai qu'on donne quand même un certain nombre de conseils. Vous savez, si vous voyez que votre conjoint dort pas très bien, ben à ce moment-là, vous tirez vraiment sur le signal, vous nous appelez, vous intervenez, tout ça. Et là, une famille comme ça, qui suivait assez régulièrement les réunions, vient me voir, et puis le mari, catastrophé, il dit, écoutez... je crois qu'elle est en train de rechuter parce qu'elle ne fait plus le repassage. Donc, c'est une histoire vraie. On pourrait très bien faire des slides, hein, et des dessins humoristiques en représentant cette scène. Mais c'est du réel, ce que je vous raconte. Alors, ce soir, je vais essentiellement parler de ces mesures psychoéducatives. On ne va pas parler de l'ensemble des thérapies psychologiques, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Il nous faudrait un séminaire d'un mois pour parler de la psychanalyse, pour parler des thérapies comportementales, pour parler de tout ce que veut faire Juliette concernant les thérapeutiques par le sport, parce que Juliette est une assidue du patin à glace, du surf. Je ne sais pas où elle est là. Et elle adore les sports de glisse. Et c'est pour ça qu'elle s'est démise l'épaule il y a peu de temps, d'ailleurs. Mais, insister sur ces mesures psychoéducatives, parce que ces mesures psychoéducatives, eh bien, permettent d'avoir une meilleure vision de ce trouble. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce trouble, premièrement, c'est un trouble qui est multidéterminé. C'est-à-dire que quand on est maniaco-dépressif, quand on a un trouble bipolaire, eh bien, c'est pas déterminé génétiquement, c'est pas un trouble biologique, c'est un trouble qui est déterminé pour certains, bien sûr, par des facteurs biologiques, mais en sachant que ce sont des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition, mais ce n'est pas la biologie qui va provoquer le trouble bipolaire, mais il y a cette notion de vulnérabilité, il y a cette notion de terrain. Bon. Mais on peut très bien avoir un terrain maniaco-dépressif et ne présenter jamais de trouble maniaco-dépressif. Je vous rappelle que le risque, quand on a un parent atteint, il est de 8% à peu près, donc ce qui fait qu'on a quand même 92% de chances de ne pas l'avoir. Bon. Eh bien, à côté de ça, donc, il y a tous les autres facteurs, des facteurs environnementaux. Hein. Ces facteurs environnementaux peuvent être donc précoces, c'est-à-dire survenir au cours de l'enfance et de l'adolescence, ou plus tardifs. Et on insiste beaucoup, par exemple, sur la notion d'agression sexuelle, d'attouchement durant l'enfance, parce que lorsqu'on reprend un peu l'histoire des maniaco-dépressifs, on s'aperçoit que beaucoup ont été victimes d'agressions et que ça a été un facteur de fragilisation. Donc un facteur de vulnérabilité génétique, plus des facteurs de vulnérabilisation durant l'enfance liés à des agressions, plus des événements de vie particuliers, plus une absence de règles d'hygiène de vie, plus des cassures au niveau des rythmes, eh bien, ça peut provoquer le trouble. Donc on a une vision plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent, et à partir de là, on doit proposer des stratégies en tenant compte de cet aspect plurifactoriel. Il y a un autre aspect qui est à considérer, c'est que le trouble maniaco-dépressif est un trouble qui n'est pas isolé. Très souvent, il est associé à d'autres troubles. Il peut être associé à des troubles anxieux. Il peut être associé à des addictions, en particulier la prise de toxiques, de cannabis ou de substances beaucoup plus dangereuses, et d'alcool. Donc là, il y a une dépendance dans 60% des cas, associée aussi à troubles des conduites alimentaires et aussi associée à des troubles de la personnalité. Donc on voit qu'il y a une comorbidité, et là encore, il est important de prendre en considération l'individu dans sa globalité et prendre en considération tous les éléments qui peuvent favoriser cette déstabilisation. Donc cette approche psychologique et centrée sur donc la psychoéducation a pour objectif donc de prévenir, de diminuer le risque de rechute et surtout d'améliorer la qualité de l'observance et d'améliorer la vie du sujet et de faire que les règles d'hygiène de vie soient respectées. Alors, il y a un point qui, l'élément, je dirais, la clé de voûte de la mesure psychoéducative passe par, bien sûr, une première étape qui est l'acceptation. Accepter son trouble, c'est la condition indispensable pour que le reste puisse fonctionner. C'est-à-dire que si on n'accepte pas sa maladie, eh bien, on ne peut pas être traité. Parce que premièrement, on n'acceptera pas le traitement. Quelqu'un qui n'accepte pas sa maladie n'acceptera pas le traitement et acceptera encore moins les effets indésirables liés au traitement. Bon, ça, c'est une évidence. Or, cette acceptation, bien sûr, elle passe par une information. Et donc là, il y a tout un travail. Et ce n'est pas évident, comme ça, d'accepter, de se dire « je suis malade ». Donc, on peut prendre comme modèle, par exemple, le diabète. Eh bien, il y a des groupes psychoéducatifs aussi qui sont mis en place pour les diabétiques. Or, beaucoup de diabétiques, il y a 30 ans, 40 ans, parce qu'on en parlait peu, n'acceptaient pas leurs troubles, avaient un vécu très, très péjoratif de ce trouble, comme pour l'épilepsie, par exemple. Et donc, la non-acceptation pouvait favoriser une mauvaise observance et des récidives. Donc cette acceptation, elle est fondamentale et il n'est pas évident d'accepter un trouble. Mais quand on a ce trouble, il n'y a pas d'autre solution que de l'accepter. Alors comment faire pour l'accepter? Eh bien déjà, ne pas considérer ce trouble comme quelque chose d'honteux, ça paraît être une évidence, et le trouble maniaco-dépressif est quelque chose d'abord qui peut arriver à tout le monde. Je dirais que personne n'est protégé contre un trouble maniaco-dépressif. Quand je dis que personne n'est protégé, vous allez me dire, mais attendez, tout à l'heure, vous nous avez parlé de vulnérabilité génétique, de personnes qui avaient cette prédisposition. Eh bien, vous avez des personnes qui vont déclencher un trouble maniaco-dépressif sans antécédents familiaux. C'est-à-dire à l'occasion d'une répétition, d'une succession d'événements pénibles de vie, à l'occasion d'une surconsommation de toxiques, à l'occasion d'une répétition donc d'une cassure au niveau des rythmes sociaux, eh bien le sujet va commencer à présenter un épisode dépressif. Et puis, eh bien, cet épisode dépressif va être traité par un antidépresseur. Et qu'est-ce que va faire l'antidépresseur? Il va faire inverser l'humeur. Et quand on reprend un petit peu l'histoire des personnes, eh bien, on s'aperçoit très souvent que le trouble a été inauguré par une dépression qui a été traitée par un antidépresseur, parfois un antidépresseur qui n'était peut-être pas très adapté à cette dépression, et cet antidépresseur a provoqué une inversion d'humeur, et à partir de là, il y avait un cycle infernal qui commence. Et quand on reprend un peu l'histoire des personnes, on s'aperçoit que presque la moitié des maniaco-dépressifs ont commencé par un épisode dépressif qui a été traité par un antidépresseur, et il y a eu ce virage de l'humeur. Une autre donnée récente montrerait que, et ça c'est Akiskal qui travaille là-dessus, montrerait que 50% des déprimés, déprimés unipolaires donc, vont faire un virage de l'humeur et vont devenir bipolaires. Bon. Ça c'est quand même une donnée importante. Alors ce qui fait que quand on a cette vision assez élargie du trouble, eh bien, on s'aperçoit que le trouble bipolaire, il est quand même très très fréquent et beaucoup plus fréquent que les chiffres qu'on rapporte habituellement. Les chiffres qu'on rapporte habituellement, c'est 1,5%, 2% de la population. Il est certain que si on prend en considération toutes ces personnes qui ont fait un virage de l'humeur sous antidépresseurs ou qui ont des fluctuations d'humeur, on arrive très facilement à 6%, voire 10%, et voire pour certains auteurs, jusqu'à 20%, ça dépend des critères qui sont utilisés. Alors, 20%, ça fait beaucoup. Si on utilise les critères qui amènent à des chiffres de 20%, il est certain que dans ces 20%, il y a énormément de personnes qui ne souffrent pas franchement de leurs troubles, qui subissent des fluctuations d'humeur, mais ces fluctuations d'humeur sont compatibles avec une activité professionnelle normale. Donc il n'y a jamais eu d'arrêt d'activité et il n'y a jamais eu de traitement. Il n'empêche qu'il y a des fluctuations d'humeur. Ces fluctuations d'humeur sont supérieures aux fluctuations d'humeur que présente, je dirais, 100% de la population. Notre humeur, elle varie en fonction d'événements, c'est normal. Ce qui fait la maladie, ce qui fait le trouble, ce qui fait le caractère pathologique, c'est l'intensité, c'est la pluricité des symptômes et c'est la durée de ces symptômes. Je dirais que c'est trois éléments, hein, donc l'intensité des symptômes, la multiplicité des symptômes et la durée de ces symptômes fait le caractère pathologique. Si on est triste par rapport à un événement particulier ou si on a un moment d'euphorie dans un contexte particulier et que le lendemain on se retrouve tout à fait normal, eh bien on n'est pas bipolaire, mais c'est vrai qu'on a une humeur qui change en fonction des événements. Donc quand je dis que l'acceptation c'est un peu la clé de voûte de la réussite de la prise en charge, c'est qu'il est certain que si on a une vision négative de cette maladie, de ce trouble, eh bien c'est très difficile de continuer. Donc là il y a un travail d'accompagnement, il y a un travail psychologique qui est important à faire. C'est pas évident d'accepter son trouble en l'espace d'une heure, en l'espace de deux heures. C'est un travail de longue haleine. Ce sont des réunions qui vont permettre de faire d'échanger un peu la perception qu'on peut avoir de ce trouble. Récemment, au cours d'une réunion, il y avait une jeune femme qui intervenait et qui ne disait que du bien du trouble maniaco-dépressif. Elle le voyait positivement. Bon. Et même dans les phases dépressives. Alors, cela dit, les phases dépressives, c'est douloureux. Mais elle disait qu'il y avait une vision différente des choses, il y avait un travail psychologique qui se faisait, il y en avait une autre perception de la réalité et un travail au niveau de l'humilité, de la sensibilité. Alors, c'était peut-être un petit peu excessif, d'autant plus qu'elle était probablement en phase d'hypomanie pour dire de telles choses, mais il n'empêche que ce trouble n'est pas un trouble honteux. Et on avait eu une réunion consacrée à la créativité. Quand on reprend un peu toutes les personnes qui sont atteintes de ce trouble, mais quand je dis atteintes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de ces 20% qui présentent des troubles plus ou moins intenses, elles font partie de ces 2%, c'est-à-dire qu'il y a des troubles qui sont caractérisés avec nécessité d'une prise en charge, on s'aperçoit que ces personnes qui sont brillantes ont quelque chose de particulier qui fait que, il n'y a aucune honte à avoir ce trouble. Donc les listes, vous les avez, vous pouvez interroger Internet, vous tapez personnalité, et puis vous tapez trouble bipolaire, vous tapez écrivain, acteur, trouble bipolaire, et puis vous verrez les listes qui vont tomber. Et je prends toujours les mêmes exemples, mais c'est ceux qui sont très porteurs, et si on pouvait avoir des ambassadeurs comme ça d'Argos et de la maladie maniaco-dépressive à travers quelques personnalités, ce serait très très positif, parce qu'il est certain que lorsqu'on prend comme référence Anthony Hopkins ou Robin Williams par exemple, c'est du plus parce que ce sont des prototypes. Ils sont prototypes. Robin Williams, c'est quelqu'un qui est hyper affectif, qui est dans qui donne, il est généreux et il donne de sa personne aux autres. Eh bien, c'est véritablement le prototype. le prototype d'un maniaco-dépressif. Donc, lorsqu'on est amené à parler en ces termes, tout en prenant en considération les moments dépressifs qui sont abominables, c'est-à-dire qu'il y a une douleur, il y a une souffrance abominable qui est supérieure à la souffrance physique, lorsqu'on prend en référence donc ces personnalités, on peut avoir quand même une autre vision d'un trouble qui n'a rien d'honteux. Et je dirais que c'est humain de se déprimer, c'est humain d'avoir des sensations fortes, c'est humain d'avoir des réactions d'euphorie. Eh bien, quand on a un trouble maniaco-dépressif, je ne dis pas qu'on est hyper humain, mais on a une sensibilité extraordinaire. Et à chaque fois, je le dis, mais je ne le dis pas du tout de manière démagogique, c'est que les médecins qui s'occupent de maniaco-dépressifs ont énormément de chance parce qu'ils ont une qualité relationnelle avec leurs patients qui est hors du commun. C'est-à-dire que jamais, avec d'autres types de patients, on aura cette qualité relationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, il est certain que des exemples, je pourrais vous en donner plein, mais l'acceptation du trouble, c'est véritablement la clé de voûte. C'est déjà ça qui va permettre d'avancer. Et ce travail, il est long, mais il sera facilité par des échanges. Il sera facilité par un travail en petit comité où chaque personne peut s'exprimer. Et c'est à travers ce travail de groupe que les gens vont d'abord se reconnaître. Et ce que je remarque, moi, c'est qu'au cours de ces réunions qui existent depuis quand même maintenant plusieurs années, eh bien, il y a quelque chose de très humain au sens noble du terme, à savoir qu'il y a une convivialité, une chaleur qui est liée à la personnalité propre des maniaco-dépressifs. Et ce qui fait que cette salle, elle est pleine d'ondes positives. Je ne délire pas, hein, je ne vais pas partir sur... Mais on est dans du positif, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ce regard qu'on peut avoir sur le trouble, eh bien, fait que, bien évidemment, la personne, sans se sentir valorisée, va accepter. Et donc, il est certain que lorsqu'on fait ces groupes et lorsqu'on travaille en petit comité, il y a un échange qui se crée, et cela facilite considérablement parce qu'il est plus difficile lors d'un entretien classique psychiatre-patient de pouvoir travailler sur ce thème, et parce qu'on manque de temps, parce qu'on n'aura peut-être pas la disponibilité d'esprit. Or, lorsqu'on est en groupe, on a du temps, ça se répète, il y a quelque chose qui se construit, qui se consolide, et ça aboutit à des résultats qui sont positifs, enfin... Moi, le recul que je peux avoir déjà par rapport à ces travaux de mini-groupe, eh bien, il est très positif. Voilà. Alors, cette acceptation, bien sûr pour le patient, mais aussi pour le conjoint. Ça, c'est une évidence. Quand je parle du conjoint, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être les amis. Mais je crois que cette acceptation, elle passe par là aussi. Parce que si vous vous retrouvez marié et que le mari ne comprend strictement rien à votre trouble et continue à vous percevoir comme quelqu'un, un extraterrestre ou quelqu'un dont il a honte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir honte de leur conjoint du fait de leur trouble, rappelez-vous quand même que déjà, quand on est déprimé ou quand on est maniaco-dépressif, il y a déjà ce sentiment de honte, contre lequel on lutte et on se bat en permanence, eh bien, le conjoint peut aussi avoir ce sentiment de honte. Parce qu'il va être inquiet par rapport aux réactions que vous pourriez avoir en public. Et puis, honte de se dire, je suis marié avec une malade ou un malade mental, qu'est-ce que va devenir ma vie? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je ne peux même pas inviter... mon directeur à dîner parce que à chaque fois c'est catastrophique. Bon, je crois que le travail il passe par là aussi parce que cette acceptation du conjoint et que le conjoint accepte la maladie donc du bipolaire, c'est aussi fondamental. Et là, ça nécessite de mener parallèlement, de faire parallèlement un travail. Alors, vous avez des conjoints qui sont pas trop rigides, et puis vous avez des conjoints complètement à mi-donner. Qui ne comprennent rien à rien et qui va falloir travailler au corps, qui va falloir désamidonner. Et c'est important parce que C'est un facteur d'entretien. Alors, quand vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous culpabiliser et qui vous dit, qui n'arrête pas de vous dire « secoue-toi, écoute, arrête avec tes histoires, tu m'énerves, calme-toi, prends tes médicaments c'est une culpabilisation. Et à chaque fois, donc, vous êtes miné, donc on vous travaille à la perceuse et ça fait très mal. Donc il y a ce travail. Et là encore, à travers les petits groupes qu'on a animés, surtout à Sainte-Anne, eh bien, on voit quel est le regard du conjoint. Et ce regard, il évolue. Mais c'est le conjoint, mais c'est les parents, c'est les enfants, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire tout l'entourage. Et ça, c'est quand même un point qui me paraît très important. Alors, bien sûr, il y a la lecture d'ouvrages. Bien sûr, il y a toujours se référer à des modèles. On parle toujours de Kate Jamison. Je me répète à chaque fois, mais je me répète pour les personnes qui prennent le train en route, là. Kate Jamison est professeure de psychiatrie. Elle est la grande papesse de la maladie maniaco-dépressive, c'est-à-dire 10 000 fois plus que moi. Et elle est reconnue dans le monde entier. Elle a écrit un ouvrage avec Goodwin qui est une bible, une véritable bible sur les troubles maniaco-dépressifs. Et donc, Manic Depressive Illness, et c'est quelqu'un qui a énormément publié et qui a énormément travaillé, et qui travaille depuis 20 ans, sur le trouble maniaco-dépressif. Or, elle a écrit d'autres ouvrages, elle a écrit un autre ouvrage qui s'appelle « Touch of Fire », et qui se réfère à toutes les personnalités, tous les artistes qui étaient touchés par le trouble maniaco-dépressif. Et elle a écrit un deuxième ouvrage de vulgarisation qui s'appelle donc De l'exaltation à la dépression, dont je vous ai parlé plusieurs fois chez Robert Laffont, et où elle raconte sa propre histoire de maniaco-dépressive. Or, c'est important d'avoir des modèles comme ça, de se dire mais on peut être maniaco-dépressif, avoir des responsabilités. Et là, je vais faire une toute petite parenthèse, parce que je vais être anti-déontologique, mais je ne vais pas donner de nom. C'est-à-dire que j'ai vu récemment une jeune femme de 30 ans qui est maniaco-dépressive et qui a un trouble maniaco-dépressif archi typique, avec des phases hautes, des phases basses. Et cette femme, elle était particulièrement brillante, elle l'est toujours d'ailleurs, et elle a licencié d'histoire, un DEA où elle était première, licence première, et donc là actuellement elle est en thèse d'histoire, donc c'est une femme très brillante. Eh bien, cette jeune femme qui traverse des hauts et des bas a été hospitalisée à plusieurs reprises, et lors de sa dernière hospitalisation, elle s'est entendue dire par son psychiatre, écoutez, vous savez, compte tenu de vos troubles, il est quand même préférable que vous passiez un concours administratif, comme ça au moins vous serez tranquille. Et puis il faut envisager la Cotorep. Et puis, donc c'est une pension d'invalidité. Et vraiment, moi, je ne vois pas d'autre solution, d'autant plus que quand même que vous avez une maladie qui est très grave. Alors, ne pas prendre en considération le vouloir de cette personne, dont l'objectif était quand même de travailler, alors qu'elle a passé un bilan de compétences il y a 3 semaines, qui a mis en avant son intelligence, toutes ses capacités, le fait qu'elle était faite pour faire un travail de recherche, pour faire de l'enseignement. Donc on se retrouve comme ça, confronté à des situations parfois dramatiques, où là, bien sûr, on a une vision très, très péjorative de ce trouble. Or, il est certain qu'on peut être maniaco-dépressif et mener une vie normale, avoir des enfants, avoir une vie professionnelle normale. Alors, il est certain qu'il y en a certains qui ont été obligés de renoncer à leur activité parce qu'il y avait trop de stress, parce que il y avait trop de sensibilité. Mais des personnes, par exemple, des avocats qui étaient en permanence confrontés à des situations de stress et qui ont pu se permettre d'arrêter leur activité, comme des enseignants, par exemple, qui ont arrêté leur activité parce qu'il y avait aussi trop de stress. Mais ce que je veux dire, c'est que les maniaco-dépressifs, on en connaît tous, hein, bien sûr, et bien ces maniaco-dépressifs, quand on reprend un petit peu leur histoire, on s'aperçoit que ces personnes ont un plus, ont une sensibilité extraordinaire, ont une affectivité particulière, et on ne peut qu'aller vers eux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et d'extraordinaire qui est très très bien montré dans l'extravagant Mr. Deeds. Quand vous voyez l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra, vous voyez Gary Cooper qui est hors du commun et qui fonctionne Alors, il est maniaco-dépressif, c'est une forme atténuée, mais il fonctionne à la Capra, c'est-à-dire avec une générosité, en préférant donner et aimer que stocker de l'argent ou réussir. Et donc là, il y a quelque chose qui est fabuleux. Alors, il est certain, quand on en parle de cette manière, eh bien, c'est sûr que ça favorise l'acceptation, mais je le répète, cette acceptation, elle sera encore plus facilitée s'il y a un groupe, parce qu'il y a une interactivité, et ça, ces éléments, ils sont très importants. Alors, parfois, il y a des personnes qui sont retors, qui ont du mal à admettre le fait qu'on leur dise que ce sont des personnes exceptionnelles, qui ont énormément de qualité et tout ça, mais on y arrive, et puis au bout de 6 mois, 1 an, eh bien, ces personnes reconnaissent quand même leur propre qualité. Je faisais un petit clin d'œil là. Donc, l'acceptation, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Et cette acceptation, donc, elle passe bien sûr par une information générale sur le trouble. Et là encore, je pense que le trouble maniaco-dépressif est un trouble qui est très, très hétérogène. Il a différentes modalités d'expression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah ben, il est maniaco-dépressif parce qu'il présente tel trouble ». Non, il y a une hétérogénéité. Quand on parle d'hétérogénéité, on insiste sur le fait que les symptômes peuvent être très, très variables. Et là, on avait encore une petite réunion aujourd'hui, eh bien, des personnes qui parlaient, par exemple, de leur expérience délirante au cours de ces moments d'excitation ou de dépression. Ces expériences délirantes sont fréquentes, sont très fréquentes. Le problème, c'est qu'elles sont souvent méconnues des médecins, ou je dirais que la reconnaissance, l'attribution à un état d'excitation n'est pas faite. C'est-à-dire que le médecin va s'arrêter au délire et va poser un diagnostic de schizophrénie ou d'autres pathologies. Et là aussi, c'est problématique parce que on loupe une marche. On loupe une marche et c'est catastrophique parce que on oriente la personne vers des structures qui ne sont pas adaptées. Et là, malheureusement, les exemples, on peut vous en donner à l'appel, de personnes qui, comme ça, ont été cataloguées présentant une schizophrénie ou d'autres types de troubles et qui étaient maniaco-dépressives. Et à partir du moment où le diagnostic a été rétabli, ces personnes ont pu fonctionner normalement. J'ai toujours en mémoire le cas d'un avocat tout à fait brillant qui, au cours des épisodes d'excitation, délirait. Il entendait des voix, il avait des visions. Eh bien, il était bien sûr mis sous neuroleptique et on lui avait dit « Arrêtez votre activité parce que vous n'êtes pas capable d'être avocat ». Et à partir du moment où il a été mis sous lithium, il y a eu une disparition complète de ces phénomènes. Et là, c'est quelqu'un qui mène une vie tout à fait normale. Donc, là encore, on est dans une pathologie qui est très hétérogène, qui a de multifacettes. Et parfois, il y a des personnes qui s'arrêtent et qui disent « Mais attendez, le trouble que vous croyez de bipolaire, on m'a dit que c'était un trouble schizoaffectif parce que je délire et tout ça ». Il ne faut pas s'arrêter à cela, c'est-à-dire qu'on soit schizoaffectif ou qu'on soit bipolaire, je dirais que c'est presque pareil et le traitement est identique et le pronostic est à peu près le même. En revanche, ce qui fait toute la gravité de la maladie, ça c'est un élément aussi qu'il faut mettre en avant, c'est les troubles associés, c'est-à-dire si on a des troubles de la personnalité qui sont graves, si on a un alcoolisme important, si on a une dépendance à des toxiques, si on a des difficultés sociales, si... On a des troubles graves du comportement alimentaire, eh bien, c'est vrai que ça va faire la gravité de la maladie. Mais le trouble comme ça, isolé, est un trouble qui est, dans la majorité des cas, il est tout à fait maîtrisable, à la condition, bien sûr, de se donner tous les moyens pour prendre en charge et ce trouble. Et la prise en charge, je le répète, ne se limite pas simplement à un médicament, mais passe par cette dimension psychologique. Donc l'acceptation, c'est vraiment la clé de voûte. Je vais arrêter maintenant parce que je veux dire que je radote, mais c'est la clé de voûte. Deuxième point sur lequel on travaille au cours de ces réunions, c'est la reconnaissance précoce des symptômes qui annonce la récidive, la rechute. Et là encore, on sait que lorsqu'on intervient précocement, eh bien, ça permet d'éviter des hospitalisations, et ceci en particulier en ce qui concerne les états d'excitation maniaque. Pour la dépression, c'est différent. Alors, il est certain que la reconnaissance précoce quand on s'aperçoit que sa femme ne fait plus le ménage ou le repassage, bon, c'est pas ce qu'on apprend, c'est pas... Bon, on pourrait. Mais c'est comme pour la fête des mères, quand on offre un fer à repasser, c'est pareil, hein, moi je le mets au même niveau. Mais bon, je m'arrête là. Donc la reconnaissance précoce des symptômes, c'est de travailler sur soi, en sachant que chaque personne peut avoir son propre signal symptôme, ça c'est un point qui est important. Donc vous avez celui qui sort ses chaussures rouges parce qu'il a envie de mettre des chaussures rouges pour aller à l'église, par exemple. Eh bien là, c'est quelque chose qui est assez caractéristique, mais et à chaque fois qu'il va sortir ses chaussures rouges, ça aura une signification particulière, il sera quand même désinhibé. Il y a celui qui va avoir des préoccupations mystiques inhabituelles, et qui va se relancer dans des activités au sein d'associations religieuses. Il y a celui qui va sortir son chapeau. Il y a celui... Bon, vous avez mille signaux symptômes, et c'est important de pouvoir les identifier. Il y a celui qui achète une moto à chaque fois qu'il fait un épisode d'excitation maniaque. Ne riez pas. Et elle dit, ça y est, hein, il est en train de virer parce qu'il s'est acheté une moto. Et ça, c'est des cas qu'on voit régulièrement. Bon. Et puis, il y a des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques, je dirais, comme par exemple le sommeil. Le sommeil, c'est un élément qui est assez caractéristique. Et lorsqu'on commence une phase d'excitation maniaque, en règle générale, on dort peu, on réduit son temps de sommeil, on s'endort à 2h du matin, on se réveille à 6h en pleine forme, et on va faire de la gym tout de suite. Donc là, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Donc il faut être prudent par rapport à son sommeil et se dire, oh, attention, ce soir, j'appuie sur le frein parce que je suis en train de monter et il faut que je fasse très attention. Et puis, il y a tout le reste. Bien sûr, il y a le fait que ben, vous êtes un petit peu différent d'avant. Vous allez discuter au café quand vous prenez votre croissant là. Tranquillement, avant, vous étiez tout seul dans votre coin avec votre journal et puis là, vous commencez à discuter à droite et à gauche. Vous dépensez plus que d'habitude, et ça aussi c'est un signal assez caractéristique. Donc il y a plein de signaux, mais comment faire pour s'évaluer? C'est ça qui est important. Eh bien, on a des grilles d'auto-évaluation. Demander à des patients, par exemple, de se suivre. Je sais qu'à chaque fois je vous en parle, mais j'oublie toujours de les amener. C'est de pouvoir tous les jours se noter en quelque sorte. Se noter, alors noter son poids, noter le nombre d'heures de sommeil. Et puis s'auto-évaluer globalement. Hein, donc aujourd'hui, bah, j'ai une humeur à plus 2. Hier, j'étais à plus 1. Donc on voit... Alors vous allez dire comment évaluer son humeur? Eh bien, on peut le faire d'une manière globale ou on peut le faire à partir d'un certain nombre de critères. Par exemple, le temps de parole au cours d'une journée. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Donc le sommeil, je vous l'ai dit. Le nombre d'activités qu'on peut avoir. La fréquence de ses rapports sexuels, des petits détails, mais c'est vrai que tous ces éléments vont nous donner une information sur notre état d'humeur, et ça c'est important parce que ça va permettre d'avoir une vision tout à fait globale et de suivre un petit peu son évolution, et puis parfois aussi de se rassurer parce que vous avez le droit d'avoir des moments d'euphorie, de moins dormir parce que vous êtes plus en forme, parce que vous avez flashé sur quelqu'un, parce que... Bon, donc tous ces éléments peuvent intervenir. Et donc, c'est important parce que ça permet de relativiser. Et puis ça rassure aussi le conjoint parce que la reconnaissance précoce des symptômes, c'est vrai que c'est un travail qu'on fait sur soi, mais on apprend aussi au conjoint à travailler dans ce sens. Le problème, c'est que le conjoint... Il ne faut pas qu'il soit sur son mirador et dit « Oh là là, tu es en train de virer, là, t'as ri, et bon. » Non, mais ce sont des situations réelles. C'est-à-dire que vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de rire, sans pour autant être en train de rechuter. C'est-à-dire qu'on a le droit de mener une vie normale ou d'engueuler quelqu'un dans la rue ou de s'exprimer tout simplement sans dire « Je suis en train de rechuter » ou « Je suis en train de remonter. » Donc ça, C'est un point qui me paraît important. Et je dirais que, là encore, le fait de travailler sur cette reconnaissance précoce, ça se fait seul, ça se fait avec le conjoint, quand le conjoint ne vous a pas quitté. Et ça, c'est un autre problème. Mais il va revenir quand les choses seront calmées. On le revoit, parce que quand on reprend un petit peu l'histoire des manéco-dépressifs, il y en a beaucoup qui sont multidivorcés, mais qui ont divorcé plusieurs fois avec la même personne. Et ce qui montre bien quand même qu'il y a quelque chose qui est très attachant chez eux. Deux points. Premier point, donc, l'acceptation. Deuxième point, c'est la reconnaissance précoce des symptômes. Troisième point qui me paraît quand même assez important, c'est l'observance. De se dire, il faut que je prenne un traitement tous les jours. Et là encore, si on ne vous a pas donné un certain nombre d'informations, des informations basiques, le traitement, on va l'arrêter. Je donne toujours l'exemple de celui qui a une hypertension artérielle. Donc, vous allez voir votre médecin, on vous prend la tension. Vous avez 18-12. Écoutez, je vais vous donner un médicament. Vous verrez, en l'espace de quelques jours, ça ira mieux. Pas de problème. Vous revenez me voir uniquement si vous avez mal à la tête. On prend les médicaments parce qu'on est discipliné. Et puis, que, comme tous les Français, on aime bien prendre les médicaments. Donc, on prend les médicaments. Et puis, au bout de 15 jours, on a une panne générale. Quand je dis panne générale, c'est sexuel. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce médicament nul ? Là, je reste correct. Je vais l'arrêter parce que c'est insupportable. Je ne peux plus avoir... Il y a une personne ici qui rapportait la même chose avec le Dépakote. En ce qui concerne ce traitement anti-hypertenseur, je vais l'arrêter parce que là, je me sens encore plus mal qu'avant. Je vois pas l'intérêt de prendre un médicament qui entraîne des effets aussi indésirables. Je suis plus bon à rien. Si le médecin vous dit, écoutez, vous avez une hypertension. Cette hypertension, elle est facile à contrôler. D'abord, il faut peut-être quand même faire un régime. Faites attention à un certain nombre de produits qu'il faut éviter. Et puis, dites-vous bien que vous risquez quand même des problèmes, parce que quand on a une tension qui est élevée, on risque d'avoir des complications, soit au niveau du cœur, soit au niveau du cerveau, avec des vaisseaux qui pètent, et puis vous retrouvez ensuite paralysé. Donc c'est quand même très très important que vous preniez ce médicament. Ce médicament, il peut provoquer des effets indésirables. Bien sûr, vous avez, par exemple, la puissance. C'est un effet indésirable possible. Mais dites-vous bien qu'il y a toujours la possibilité d'ajuster au mieux le traitement et on peut remplacer le traitement par un autre médicament si, par exemple, vous aviez ce problème ou si vous étiez gêné par ce problème. Ça dépend de l'âge, ça dépend du contexte, ça dépend de la femme, ça dépend de plein de choses. Je parle des hommes, là, pour ce problème-là. Là, c'est sûr que l'attitude, elle sera différente. À notre niveau, c'est pareil. C'est-à-dire que notre travail d'information, il est identique. C'est-à-dire qu'on est là pour donner une information générale sur le trouble, sur les conséquences de ce trouble, donc la signification des symptômes, sur les conséquences possibles, les complications possibles de ce trouble, et puis donner une information, bien sûr, aussi sur les médicaments, sur la signification de ces médicaments, comment ils agissent, pourquoi on les prescrit, qu'est-ce qu'on en attend, en sachant que parfois il faut attendre pas mal de temps avant que le médicament fasse son effet, et qu'est-ce qui risque de se passer si on arrête le traitement. Donc ça, c'est des éléments qui sont à prendre en considération, qu'il faut développer au cours des réunions. Et là, je crois que c'est aussi un élément qui est fondamental et qui va conditionner la qualité de l'observance. Et on le voit bien, c'est que déjà, le maniaco-dépressif, le bipolaire, est quelqu'un qui a tendance à ne pas prendre correctement son traitement parce qu'il est dans l'excès, il est dans la recherche de sensations, il est pressé, et donc il va arrêter, il a plus de risques d'arrêter son traitement que quelqu'un qui n'est pas maniaco-dépressif. Bien, si on ne donne pas cette information en amont, on a tous les risques d'un arrêt et puis d'une reprise et d'une aggravation du trouble. Donc là, c'est un élément qui me paraît fondamental. Donc il faut prendre du temps, il faut en discuter, il faut répéter, parce que là aussi, ce n'est pas évident d'intégrer comme ça immédiatement ce qu'est le trouble, quelles sont les conséquences de ce trouble, ce qu'est un médicament, comment agit-il, quels sont ses risques. Donc là, il ne faut pas hésiter à répéter. Et à partir d'un certain moment, on arrive quand même à faire acquérir cette éducation, faire que la formation soit transmise et intégrée. C'est ça, c'est un point qui est important. L'autre, L'autre élément qui me paraît important, indépendamment de l'acceptation, indépendamment donc de la reconnaissance précoce des symptômes, c'est, et là ça concerne plus les conjoints, c'est quand même de donner une explication sur la signification des symptômes. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est très important, parce qu'on le voit. On le voit au sein des couples en particulier, les ravages que ça peut faire, les dislocations que ça entraîne. Lorsque vous êtes déprimé, vous êtes en apparence indifférent ou irritable. Lorsque vous êtes en phase d'excitation, vous avez une envie, c'est de partir. C'est de partir, c'est de vivre des choses intenses. Donc il y a un besoin de fuite. Bon, il y a un besoin de fuite et... beaucoup de maniaco-dépressifs, au cours de leur phase maniaque, ont fait des fugues. Mais ça fait partie du trouble. Et là, à nous aussi de donner cette information au conjoint, parce que le conjoint ne peut pas comprendre à quoi ça correspond. Et il a pas cette information, et donc il va vivre très très douloureusement cette symptomatologie en se mettant en cause, ou en considérant que c'est quelque chose qui lui est destiné. C'est-à-dire que si ma femme s'en va, c'est qu'elle ne m'aime plus. Si ma femme est indifférente, c'est qu'elle ne m'aime plus. Si elle est irritable et agressive, c'est que je l'énerve et qu'elle ne m'aime plus. Donc on est dans quelque chose qui nécessite un travail. Et là, il y a un travail d'accompagnement. Et là encore, au niveau des groupes, et peut-être des groupes qui sont plus spécifiquement construits autour... De conjoints, de personnes qui sont directement concernées, eh bien, ça permet de soulager le poids induit par ce trouble et d'apporter d'autres horizons. Il y a le problème de la gestion, donc le problème de la gestion de sa vie. Le problème de la gestion de sa vie, et là aussi, c'est un élément qui est très important parce que on sait que le trouble maniaco-dépressif est déclenché, est favorisé, est facilité par les stress, les situations de stress. Bon, situations de stress qui, lorsque elles s'accumulent, lorsqu'elles se répètent, eh bien, ont un rôle de booster. Donc, comment gérer les stress du quotidien? Ça, c'est un vaste sujet, parce que c'est pas évident comme ça de pouvoir contrôler l'apparition d'une feuille d'impôt. Si ce n'est de d'écrire n'habite plus à l'adresse indiquée, mais en règle générale, on se fait toujours retrouver. Donc, il y a des stress qu'on peut contrôler, il y a des stress qui sont incontrôlables. Alors, il est certain que les stress incontrôlables, ce sont les deuils, les événements pénibles, les licenciements, toutes les situations comme ça, qui sont très douloureuses et contre lesquelles on n'a bien sûr aucun moyen d'agir. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre de situations de stress qu'on peut tout à fait contrôlé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation de sa vie, et de faire que se dire, tiens, il y a Massacre à la tronçonneuse qui vient de sortir, là, c'est une nouvelle version, je l'avais bien aimé quand il était sorti en 1967, ça m'avait quand même un petit peu perturbé, mais j'aimerais bien voir ce que ça fait aujourd'hui. C'est pas très utile, parce que compte tenu de votre sensibilité, eh bien, je crois qu'il faut éviter tout ce qui peut générer de l'effroi, de la terreur, de l'anxiété, de l'angoisse inutile. Donc là, c'est pas évident, mais c'est important de faire des choix comme ça. De même que d'éviter aussi toutes les situations de stress. Si vous êtes un amateur d'art et qu'il y a une exposition Gauguin et que vous vous dites, tiens, je vais aller voir cette exposition et que vous faites 4 heures de queue et que vous ne pouvez pas assister à cette... Ça va être un facteur de stress qui va vous déstabiliser. Donc ça nécessite, je dirais, pas un réapprentissage, mais une réorganisation de sa vie, et de se dire, bah, tiens, je vais faire ça parce que ça va me faire plaisir, et puis ça, je ne vais peut-être pas le faire parce que ça va quand même générer pas mal d'anxiété. Donc le retard, par exemple, c'est un facteur de stress très important. Il y a des personnes qui sont systématiquement en retard, mais c'est malgré eux, c'est plus fort qu'eux, mais cela dit, ça génère quand même un stress, parce qu'elles savent qu'elles vont arriver en retard, mais il y a un stress pas possible. Donc là, c'est quand même des choses qui peuvent être contrôlées. De même que le phénomène de procrastination, j'en parle souvent, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est aussi un facteur très déstabilisant, mais à vous d'arriver à faire qu'il n'y ait plus cet entassement et cette pile qui monte, qui grimpe. Et c'est sûr que Quand on procrastine, eh bien, on a bien sûr l'anxiété du moment, on se dit, tiens, il va falloir que je fasse ça, et je ne le fais pas, donc on va se culpabiliser, et puis on va être mal, et puis ça s'entasse, et puis le lendemain, tiens, je ne l'ai toujours pas fait, et puis je le ferai après-demain. Et puis après-demain, c'est trop tard, parce que vous avez, par exemple, dépassé la date pour les impôts, et vous vous retrouvez avec 10% en plus. Mais c'est des problèmes d'organisation de vie. Alors, il y a comme ça un certain nombre de conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut respecter ses rythmes sociaux. Il faut, dans la mesure du possible, savoir faire des petits breaks dans la journée et se dire, bah, tiens, là, aujourd'hui, j'en ai un petit peu trop fait. Je m'arrête. Savoir anticiper. Le matin, prendre son petit déjeuner assis et pas debout, en train d'utiliser l'eau chaude et qu'on mélange avec du Nescafé en trempant un petit bout de pain rassis. Bon. Mais parce qu'on est pressé, parce que C'est des petits éléments de vie, là on pourrait en lister une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, qui font que la vie peut être améliorée, même si on est dans des situations qui sont difficiles. Alors là, moi, je vais vous livrer, à titre confidentiel, parce que ça reste purement entre nous, quatre principes de vie que je défends et qui me paraissent très importants parce que ils permettent d'atténuer, je dirais, le poids des événements, le poids de la vie parfois qui est assez lourd, et de faire que il y a un peu plus de légèreté. Et j'ai 53 ans, et bien j'ai pris conscience de cela à 50 ans. Ça pour rassurer ceux qui sont plus jeunes. Et pour ceux qui sont plus âgés, ben, il y a toujours le temps d'intervenir encore. Mais quand j'étais en train d'écrire le livre avec Jean-Alain Génermont, je me suis aperçu, quand on faisait un listing de tout ce qui devait être fait, je me suis aperçu que je ne faisais strictement rien de les conseils qu'on pouvait donner. Mais strictement aucun. Bon, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis là-dessus, donc, il y a eu des rencontres et il y a eu un auteur qui s'appelle Krishnamurti. Krishnamurti est un philosophe indien. Qui a écrit un ouvrage qui s'appelle... il a écrit énormément d'ouvrages. Bon, j'avais essayé de lire Krishnamurti il y a 25 ans, j'avais strictement rien compris. Et je qualifiais cet auteur de... pas Baba Cool, mais personne un petit peu hors norme. Or, il s'avère que Krishnamurti est un philosophe, c'est quelqu'un qui a étudié la philosophie occidentale, qui s'est intéressé à l'analyse. Et qui a un regard très critique, hein, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les Hare Krishna. C'est quelqu'un qui a un regard très critique sur la religion, sur la vie, et qui, quand on lit ses ouvrages, eh bien, il y a des choses élémentaires, et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir puiser comme ça des idées qu'on peut appliquer. Alors, on n'est pas obligé d'intégrer la totalité de ce qu'il écrit. Mais il y a comme ça des idées. Donc il y a un ouvrage que j'ai conseillé à un certain nombre de mes patients qui s'appelle « Se libérer du connu » en livre de poche. Ça ne coûte pas très cher. C'est traduit en français en plus, donc ça c'est pratique. Et « Se libérer du connu » de Krishnamurti. Hein, Krishna comme Krishna, comme le demi-dieu, enfin le dieu réincarnation de Vishnu, Krishna. Murti, M-U-R-T-I. Eh bien, se libérer du connu apporte un certain nombre d'ouvertures. Et en particulier, il parle du plaisir. Il parle du plaisir, et la notion de plaisir, c'est quelque chose qui est fondamental. Le plaisir, c'est quand même de trouver du plaisir à ce qu'on fait et de pouvoir organiser. Alors, il est certain qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y ont pas accès. Il y en a d'autres qui se l'interdisent. Mais faire que quand même que ce qu'on peut faire, on le fait avec plaisir, c'est quelque chose qui est fondamental. L'exemple, par exemple, c'est de venir ici tous les jeudis soirs. Ça pourrait être horriblement casse-pied, ça pourrait être fatigant, ça pourrait être pénible, ça pourrait être... Bon, il y a une notion de plaisir. D'abord, le plaisir, c'est de rencontrer, je le dis parce qu'elle n'écoute pas, c'est de rencontrer Juliette, c'est ma fiancée. Et donc, c'est un plaisir de la rencontrer. Et c'est extraordinaire parce que Juliette, elle est sortie des films de Capra, c'est une sorte d'ange. Et bon, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, une sorte de guide qui a une vision comme ça, fabuleuse de la vie et qui se donne aux autres. Eh bien, elle a du plaisir, elle vient ici, quand on la voit parler, elle est vraiment extraordinaire. Et elle a une expérience extraordinaire de la vie. Elle ne juge pas, elle fait les choses simplement et elle se donne. Et ça, c'est quelqu'un qui est immense, qui est immense. Mais elle a du plaisir. Et donc, venir ici et rencontrer aussi des maniaco-dépressifs et vivre dans cette atmosphère, on a que du plaisir. Or, ça, c'est un élément qui est fondamental. Donc, de pouvoir essayer de localiser où se trouve le plaisir, c'est pas évident. Faut pas mélanger le plaisir et le bonheur et tout ça. Le bonheur, c'est quelque chose qui est tellement fragile, qui est tellement instantané, qui est fugitif, parce que tout peut se casser la figure d'un jour à l'autre. On le sait tous, et c'est quelque chose qui nous angoisse. Mais le plaisir, c'est quand même quelque chose qui aide à vivre. Mais c'est pas évident. Mais le plaisir. Alors le plaisir, c'est une quête. Hein, c'est un travail personnel. Mais c'est vrai que, par exemple, venir ici, je le répète, c'est du plaisir. Rencontrer Juliette, c'est du plaisir. Discuter avec vous, c'est du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est vrai que cette notion de plaisir, elle est fondamentale dans la vie. Et ça, c'est une aide. Mais il n'y a pas que cela. Donc, il y a le plaisir. Mais à côté du plaisir, il y a un autre élément qui me paraît fondamental. Et là c'est entre nous que je dis ça. Ça va être quand même enregistré, mais c'est entre nous. C'est la notion d'acceptation. Mais pas d'accepter la maladie, mais accepter ce qu'on est. Et ça aussi, alors là, Juliette, je suis sûr qu'elle va être complètement d'accord avec moi, mais accepter ce qu'on est, c'est quelque chose qui est élémentaire. Or, le problème, c'est qu'on a toujours tendance à mettre la barre parfois trop haut, à se fixer des objectifs inaccessibles, et à ne pas accepter ce qu'on est par rapport à d'autres. Or, on est tous construits de la même manière, on a des plus, on a des moins. Je crois que c'est important d'accepter nos moins, d'avoir conscience de ces plus. C'est très important, Sophie et Caroline. Et c'est fondamental. Et à partir de là, eh bien, ça nous protège contre la frustration, ça nous protège contre l'insatisfaction, qui est quand même quelque chose qui mine terriblement. Or, le fait de se dire, d'accord, je suis comme ça, je ne serai pas bon dans ce domaine, je serai peut-être bon dans cet autre, il faut l'accepter. Et cette acceptation, elle est vraiment fondamentale. C'est comme l'acceptation de sa maladie. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à l'acceptation de la maladie. Il est fondamental de s'accepter, d'accepter ce qu'on est, en sachant aussi qu'on est là pour peu de temps et que de toute façon, on ne va rien changer. Mais se dire on a une fonction à jouer et on a tous une petite fonction. Et puis, même si on n'a pas de fonction, eh bien, se dire qu'on peut quand même apporter à d'autres certaines choses. D'arriver à positiver et accepter le côté négatif, parce que le négatif, on en a. Hein, on en a tous, on a tous des défauts, mais ces défauts, il faut vivre avec. Et puis, on ne peut pas être performant en permanence. Il y a des moments où on est plus en forme qu'à d'autres moments, et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais cette notion d'acceptation, elle est fondamentale. Donc, le plaisir, l'acceptation, c'est deux principes de base. Troisième principe, et qui est aussi important, et c'est là où je l'intègre vraiment dans la gestion de sa vie, dans l'organisation de sa vie, c'est le fait d'avoir des petites sources de gratification. Et ces sources de gratification, elles peuvent être très simples, mais se dire, tiens, je suis content de ce que j'ai fait. Alors, il est certain que celui qui se retrouve au chômage, qui est dans une situation difficile, qui est à la recherche d'un emploi, qui se retrouve pour la 30e fois face à un échec, la gratification, elle n'est pas évidente. Mais on peut se gratifier différemment par ce que fait Juliette, par exemple, tous les jours en s'occupant d'Argos, par cette dynamique qui existe au niveau de l'association. Et il y a beaucoup de personnes dans la salle qui, depuis qu'elles fréquentent Argos, ont une autre perception d'eux-mêmes, avec un autre vécu, avec quelque chose qui est positif, parce qu'on participe à une vie associative. Et ça, c'est important. Et il est certain qu'il y a peut-être des métiers qui sont plus protégés que d'autres. C'est vrai que quand on a une activité professionnelle qui est portée sur la santé, eh bien, on se donne un peu plus aux autres. Mais ce n'est pas obligatoirement ça qui va nous gratifier. On peut parfois avoir plus de gratification parce que ce n'est pas ça qui va nous gratifier parce que c'est normal, c'est notre travail. D'ailleurs, vous pourriez très bien imaginer qu'un psychiatre, il est gratifié quand un patient va mieux. Je dirais non, parce que c'est notre travail, c'est notre mission, c'est notre travail, c'est notre boulot. Bon. Mais en revanche, si on donne 10 minutes, 5 minutes de son temps à quelqu'un quand on rentre dans la rue, à qui on explique un chemin ou n'importe quoi, c'est une gratification. Et on se dit, tiens, j'ai fait ça en plus, et ça fait du bien. Et ça, c'est aussi un élément important parce que ça permet d'avoir un regard un peu plus positif sur soi et de se renarcissiser. Et ça, c'est un élément qui me paraît fondamental. Le quatrième point, mais qui rejoint, tout est lié, hein, mais c'est aussi, j'ai détaché pour, dans un but de pédagogie, mais je dirais que c'est aussi important, c'est devenir son meilleur ami. Devenir son meilleur ami, ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît très important, d'avoir le même regard sur vous que vous pourriez avoir sur votre meilleur ami. Or, le problème, c'est que lorsqu'on se regarde, eh bien, on se regarde toujours avec beaucoup plus de défauts et de manière négative et qu'on est très intransigeant, très, 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 très intolérant, très strict, qu'on va se critiquer. En général, on ne laisse rien passer. Et eh bien, d'essayer d'avoir le même regard que votre meilleur ami pourrait avoir sur vous, en vous disant, si c'est votre meilleur ami, bien sûr. Mais, de vous entraider, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que ça peut être comme ça, des vues de l'esprit, mais je dirais que, dans la pratique, si on essaye d'appliquer des choses qui ne sont pas très compliquées, en fait, à appliquer, hein, eh bien, on arrive à avancer.